Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Départ de Kylian Mbappé. L'attaquant parisien a reçu un bel hommage de la part du collectif Ultra Paris, mais n'a pas été célébré par le PSG pour son dernier match au Parc des Princes, dimanche, contre Toulouse, 1-3. Extrait d'un article France Télévisions. Un tifo, un but, mais une défaite et aucun hommage du PSG. Une dernière au Parc, au goût d'inachevé. Un septennat qui prend fin sur une défaite face à Toulouse. Dimanche 12 mai, Kylian Mbappé a disputé son dernier match au Parc des Princes avec le PSG après 7 ans. Sous les couleurs du club de la capitale, le meilleur buteur du championnat a inscrit l'unique but parisien de la rencontre et a été célébré à la fin de l'échauffement par les supporters. Il ne l'a cependant pas été par le club. Son président, Nasser Al-Khelaifi, n'avait pas été cité dans la vidéo de remerciement de la star française. Enfant de la région parisienne, tu es devenu une légende du PSG. Les mots de la banderole déployée par le collectif Ultra Paris sont forts. Légende, c'est aussi l'un des mots employés par Ousmane Dembélé en fin de match au micro de Canal+, pour qualifier son coéquipier et ami. Tout sourire, Kylian a tout de même profité des célébrations et a reçu des cadres à son effigie au pied du virage Auteuil en fin de match. Il a répondu aux nombreuses sollicitations de selfies au bord du terrain avant de regagner les vestiaires. Les adieux de Mbappé ont eu lieu dans un climat glacial entre la direction du club et la superstar, installée depuis que Mbappé a annoncé l'été dernier qu'il n'activerait pas la clause de prolongation de son contrat. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG, 255 réalisations, a confirmé vendredi dans une vidéo de près de 4 minutes qu'il partirait cet été. « Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche », a-t-il déclaré. « J'avais besoin d'un nouveau challenge après 7 années » sur France 24. C'est sur la pelouse que Mbappé se sera montré le plus expressif en allant chercher seul l'ovation des tribunes grâce à son 27e but de la saison en championnat. Inscrit après seulement 8 minutes de jeu, confie le journal Le Monde. Es solo un adios. Hasta pronto.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
Le dernier hommage à Bernard Pivot dans un village du Beaujolais. L'écrivain et journaliste lyonnais sera enterré dans le cimetière du village de Quincy en Beaujolais, aux côtés de ses parents, précise Lyon Mag. Décédé lundi 6 mai à l'âge de 89 ans. Après une cérémonie au sein de l'église du village, ce mardi, fief de sa famille, où le célèbre écrivain et journaliste a passé une partie de son enfance. Il sera ensuite enterré dans le caveau familial du cimetière communal, selon des volontés largement exprimées par cet amoureux du Beaujolais. Un territoire auquel ce défenseur de la langue française a maintes fois renouvelé son affection dans ses écrits, peut-on lire dans les pages du Figaro. La cérémonie religieuse prévue en l'église de Quincy en Beaujolais débutera à 14h30 et sera ouverte au public. En prévision de la foule importante qui devrait rendre un dernier hommage à Bernard Pivot, un écran géant devrait être installé aux abords du lieu saint pour permettre la retransmission en direct de la cérémonie pour ceux qui ne pourront pas rentrer, faute de place, précise Lyon Mag. À la question « Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec le vin ?» posée par Ouest France à Bernard Pivot, Bernard Pivot répondait « Au fond, je suis né dans le Beaujolais, comme je suis né à Lyon. J'ai toujours connu ce paysage de vigne, ce n'est donc pas une rencontre, mais une osmose lente. » L'ex-député Bernard Perrut condamné à un an de prison avec sursis pour détournement de frais de mandat, toujours conseiller régional, Les Républicains en Auvergne-Rhône-Alpes. Bernard Perrut a aussi été condamné à 5 ans d'inéligibilité, extrait d'un article du Progrès. L'ex-député Bernard Perrut, figure politique du Beaujolais, a été condamné lundi à Paris à un an de prison avec sursis, notamment pour avoir utilisé à des fins personnelles une partie de ses indemnités pour frais de mandat. Le tribunal correctionnel de Paris l'a également condamné à une amende de 60 000 euros ainsi qu'à une peine d'inéligibilité de 5 ans. L'ex-député Bernard Perrut condamné, mais reste en poste, titre Lyon Mag. La justice n'obligera pas à Bernard Perrut a démissionné de son actuel mandat de conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les peines d'inéligibilité sont souvent l'occasion pour les élus de devoir se retirer. Mais dans ce cas-là, il peut continuer à siéger à la région Aura, mais n'aura pas le droit à se présenter à d'autres élections jusqu'en 2029. Alors que Bernard Perrut avait affirmé lors de l'audience être un petit peu brouillon et avoir agi par facilité pour gérer ses frais, le tribunal a estimé que ses manquements avaient un caractère volontaire, précise Ouest-France. Le tribunal l'a donc jugé coupable de détournement de fonds publics par utilisation abusive de ses indemnités représentatives de frais de mandat IRFM pour un montant d'environ 87 500 euros et de manquement à ses obligations déclaratives vis-à-vis de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP, concernant notamment la valeur de son patrimoine et de contrats d'assurance vie. Dans la foulée de cette décision de justice, Bernard Perrut a transmis au Progrès sa réaction. « Je conteste la décision du tribunal sur le principe d'un contrôle judiciaire du mandat parlementaire. Les faits reprochés, puisque le tribunal n'a pas tenu compte des justificatifs apportés, la peine excessive est démesurée par rapport aux enjeux. Le tribunal ne me condamne à aucun versement à l'Assemblée nationale et à l'administration fiscale et personne ne s'est porté partie civile. Ceci est essentiel pour mon honneur. Mais je n'échappe pas à une sanction, même si j'ai apporté tous les éléments sur les dépenses, car l'interprétation du tribunal diffère de celle de mon conseil s'appuyant sur les règles et pratiques de l'Assemblée en 2015. J'ai utilisé la même indemnité que les autres députés pour faire face aux frais de mandat. Aucune dépense d'hôtel, de voyage, cadeau, retrait en espèces n'a été trouvée et très peu pour la restauration, l'essence, les dépenses sur le terrain que je supportais personnellement. Mais j'ai soutenu des associations, des projets, des personnes en difficulté. Quant aux reproches sur l'information tardive de la HTVP pour la succession de mon père comme des manquements dans les documents transmis, tout a été remis et précisé en 2009 sans aucune conséquence fiscale car tout était déclaré. La sanction du tribunal intervient alors que la HATVP a pourtant validé, après ses contrôles, mes déclarations et n'a constaté aucun enrichissement personnel à la fin de mon mandat en 2022. Je fais appel de cette décision de justice et je confirme que je n'ai jamais voulu ni détourner ni cacher quoi que ce soit et j'atteste de ma bonne foi selon les propos rapportés par le Progrès de l'ex-député de la 9e circonscription du Rhône. Le frelon asiatique est facilement identifiable, plus foncé, il présente des marques oranges sur la face et les derniers segments de l'abdomen. Sa tête est noire, sa face jaune orangée et ses pattes jaunes à l'extrémité. Mesurant environ 2 à 3 cm, il est plus petit que le frelon européen à la robe jaune rayée de noir. Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes fait beaucoup parler de lui et porte bien son nom. Hugues Mouret, entomologiste naturaliste, nous éclaire sur une espèce désormais chez elle.
Oui, parce qu'en réalité, tous les frelons de la planète viennent d'Asie. Les frelons, c'est ce qu'on appelle Vespa en latin. Hein. Vespa crabro, c'est le frelon qu'on a en Europe, que tout le monde appelle le frelon d'Europe, mais qui est arrivé il y a plusieurs milliers d'années, probablement transporté par la route de la soie et par nos soins. Donc déjà, ce qui est le cas aussi du frelon à pattes jaunes. Et c'est donc pour ces deux raisons. D'abord parce que tous les frelons sont asiatiques et ensuite parce qu'il y a une forme de stigmatisation à appeler quelque chose asiatique, comme si tous les problèmes venaient de là-bas. Donc pour ces raisons-là, on préfère l'appeler frelon à pattes jaunes, puisque c'est ça qui le distingue du frelon qu'on a en Europe. Le bout des pattes sont jaunes, alors que le frelon européen installé depuis longtemps a des pattes rousses. Mais après, les couleurs sont très différentes et on peut les distinguer comme on distingue un cheval d'un zèbre. Quand on les a les deux à côté, ils ne se ressemblent absolument pas.
La légende dit qu'ils sont issus de femelles fondatrices qui auraient été introduites avec des poteries importées de Chine. Un faux ou un tox ?
On n'en sait absolument rien. Il est arrivé probablement en 2004, sinon en 2003, très certainement dans la région de Marmande, mais en réalité, on n'a aucun point de départ avéré scientifiquement. Donc il y a eu des hypothèses de poterie, de céramique, de porcelaine de Chine, d'une chaîne de magasins de babioles. Là, voilà, il y a eu plusieurs hypothèses. Donc c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, ça n'a jamais été vérifié scientifiquement et on n'a aucune preuve du point d'arrivée. On sait juste qu'évidemment, c'est une bestiole qui vient de plusieurs milliers de kilomètres et qui a été transportée par les systèmes commerciaux humains.
Quand est apparu notre nouveau congénère dans le pays?
Alors il était connu en Asie, hein. il y a plein de sous-espèces de ces Vespa velutina avec plein d'espèces de sous-espèces différentes en fonction de la région. Et on l'a vu pour la première fois en France en 2004. C'est pour ça qu'on pense que c'est 2004. Mais c'est possible qu'il soit arrivé un an avant et qu'il n'ait pas été repéré. Moi la première fois que je l'ai vu c'est en 2005. Quand je bossais à l'INRA, et je vous avoue que j'ai reçu ce truc-là, quand on m'a demandé, le responsable du labo m'a dit, tu sais ce que c'est? Bah oui, c'est une guêpe, de toute façon, il n'y a pas de frelon de cette couleur, sûrement une guêpe. Et je regarde, ah, il a les critères de détermination d'un frelon. Ah, mais ça ressemble pas du tout. Donc j'étais vraiment dans une impasse. Donc j'ai contacté le Muséum de Paris, qui quelques mois avant l'avait aussi découvert, et donc j'ai pu avoir cette info. Sans ça, je me retrouvais devant une bestiole que je ne connaissais pas. Donc voilà, 2004-2005, c'est à partir du moment où on l'a vu s'installer et s'étendre.
Le frelon asiatique, un fléau pour les apiculteurs.
Oui, un frelon qui pose de sérieux problèmes à l'apiculture, mais, et alors vraiment, c'est absolument pas pour dénigrer ou dévaloriser ou rabaisser l'impact du frelon à pattes jaunes, mais c'est un impact qui est aussi à relativiser avec les conditions dans lesquelles, le contexte dans lesquels vivent les abeilles, c'est-à-dire un contexte de pollution tous azimuts, un contexte de perte de ressources alimentaires et un contexte de stress environnemental extrêmement puissant. Et donc les frelons qui normalement chasse des mouches, des chenilles, voire des guêpes pour le frelon asiatique. On sait que quand il est en forêt dans son milieu original, il chasse plutôt des petites guêpes, donc les frelons sont des grosses guêpes. Et bien là, il va se rabattre sur un cheptel qui a été sélectionné, qui est stressé, qui peut facilement mettre en stress, et il vient se servir là-dedans au détriment des apiculteurs, en sachant que la cause principale, c'est pas ça, et que si les contextes étaient favorables aux abeilles, il y aurait probablement moins d'effets de stress du fait du manque de nourriture, du fait de la disponibilité d'autres proies, etc. Donc on est dans un contexte où tout a été organisé, entre guillemets, même involontairement, pour que le frelon à pattes jaunes vienne se servir dans les ruches, au même titre que si on enferme des agneaux dans un champ où il y a des loups, ben, il ne va pas courir après les mouflons, il va attraper les moutons qui finalement ont assez peu de capacité de réaction face à une faune sauvage. Bon, c'est un peu le cas aussi pour les abeilles mellifères, les abeilles de ruche, qui est une espèce domestique qu'on a sélectionnée, notamment en réduisant son agressivité pour pouvoir lui prendre du miel sans se faire piquer, sans trop se faire piquer.
Le frelon asiatique qualifié d'espèce exotique envahissante.
Alors, ben, comme toute espèce qui arrive dans un nouveau milieu, elle n'est pas connue. Donc elle n'est pas connue des naturalistes, mais elle n'est pas connue de la faune et de la flore, mais aussi des microbes, des bactéries, des champignons. Et en réalité, en quelques années, alors là, ça fait 2004 jusqu'à 2024, ça fait 20 ans qu'il est arrivé, c'est très très court, hein, c'est un claquement de doigts à l'échelle de l'évolution. Et bien en 20 ans, on commence à voir, et déjà depuis quelques années, des oiseaux le prédater, d'autres insectes venir pondre dedans, le parasiter, comme ils peuvent parasiter d'autres hyménoptères sauvages, ou encore des maladies qui pourraient apparaître, des champignons, des bactéries qui pourraient s'installer et qui pourraient assurer un système de régulation. Parce qu'une nouvelle espèce, quand elle arrive, elle n'a pas d'antagoniste, donc elle se répand de façon extraordinaire. Et d'ailleurs, on voit la progression depuis 2004, département par département, c'est assez impressionnant. Et au bout de 20 ans, ou peut-être 30, hein, donc c'est peut-être encore 10 ans, très probablement qu'il y aura une forme de première réponse. Est-ce qu'elle suffira pour réduire le stress ou le niveau de stress des abeilles de ruche et donc convenir à l'apiculture? J'en ai aucune idée, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, certes, les mesures qu'on met en œuvre, qui tentent à réduire les capacités d'accueil du frelon, peuvent être intéressantes. Il faut surtout le combiner avec l'augmentation significative de la réponse naturelle, c'est-à-dire l'augmentation des prédateurs naturels qu'on peut identifier facilement. Ils sont gros, hein, des oiseaux, d'autres, le frelon d'Europe, voilà, très bien. Mais aussi d'autres organismes qu'on ne voit pas, c'est-à-dire quand on a un foisonnement de vie, qu'on a des haies, des bosquets, des talus, des mares, des pierriers, bref, beaucoup de milieux naturels présents, abondants et diversifiés autour, on augmente la capacité d'accueil de micro-organismes qui pourraient, pour l'un ou pour l'autre, se retrouver être un antagoniste du frelon asiatique, du frelon à pattes jaunes. Mais le problème vient souvent du fait qu'on abaisse le niveau de réponse en régulant la nature et on se retrouve qu'avec des espèces banales, communes de partout, qui n'ont pas ou peu de capacité de réaction face à une nouvelle espèce.
Hugues Mouret est entomologiste, naturaliste, mais aussi botaniste. Il intervenait dans le cadre d'une conférence sur le thème « Frelon asiatique, que fait-on ?» point d'interrogation à Chazé-d'Azergues, à l'initiative de l'association Alterninfo. Cannes 2024, une édition sous le signe du hashtag MeToo du cinéma français. Le festival, dont le coup d'envoi est donné ce mardi, démarre dans un climat de libération de la parole sur la question des violences sexuelles dans le 7e art. Peut-on lire dans les pages du Monde, extrait d'un article de Véronique Coapé et Guillaume Fressard. Caisse de résonance mondiale dont la portée déborde de l'écran large, le Festival de Cannes a toujours été, depuis sa création, traversé par les luttes politiques de son époque. Qu'il s'agisse du combat pour la parité homme-femme dans le cinéma, du soutien aux cinéastes iraniens, emprisonnés, et 2024 en donnera une triste nouvelle occasion avec la condamnation à 5 ans de prison de Mohamed Roussoulov, dont le nouveau film The Seed of the Sacred Fig concourra pour la Palme d'Or, ou plus récemment de la solidarité affichée envers l'Ukraine depuis l'invasion russe en 2022. Et bien sûr, depuis 2017, et la chute du producteur américain Harvey Weinstein, autrefois roi sur la croisette, dont il avait fait un lieu d'honneur et de prédation, du tsunami hashtag MeToo et ses multiples répliques. Un terrain sur lequel le festival est désormais scruté à la loupe, chaque faux pas ou, supposait-elle, ternissant le devoir d'exemplarité que son statut lui impose. Dixit, le monde.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.